Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Nous vous réservons quelque chose de très spécial. Notre fils Harrison Conley, qui est le pasteur principal ici à Cottonwood, a apporté un message brillant tiré du livre de l'Apocalypse sur l'église de Sardes, l'église morte. Il ne me reste plus qu'à vous dire de boucler votre ceinture de sécurité, de mettre votre casque et de vous préparer à recevoir un message qui va vous bénir. Nous allons parler de l'église morte.
Bonjour, je suis Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Apocalypse 3. Jésus dit ceci au verset 1 à 3. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, ce sont ces mots, les mots de Jésus. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, et tu es mort. Sois vigilant. Et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde. La version Second 21 dit, « Garde-la et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. » Pensez à ce que Jésus vient de dire, « Je viendrai sur toi. » L'apôtre Paul a dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» La question est la suivante. Que faire lorsque c'est Dieu qui est contre vous ? C'est une situation délicate, n'est-ce pas ? C'est la situation délicate dans laquelle se trouvent de nombreux habitants de Sardes. Pourtant, nous lisons que quelques-uns ont gardé leur feu et leurs ailes pour le Seigneur. Jésus poursuit, « Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. C'est un passage difficile. Si vous avez votre Bible, gardez-la. Nous allons garder ce passage et nous référer à quelques-uns de ces versets au cours des prochaines minutes. Je donnerai un peu de contexte historique sur la ville de Sardes, puis nous irons plus en profondeur en ce qui concerne son église. La ville de Sardes était la ville la plus importante de toute l'Asie mineure. Elle était située à 80 km à l'est de Smyrne, l'une des églises dont nous avons parlé il y a quelques semaines, l'église persécutée. De même, elle est située à environ 50 km au sud-est de Thyatire, l'église dont nous avons parlé la semaine dernière. En fait, les sept églises auxquelles Jésus écrit en Apocalypse 2 et 3 forment une ligne géographique. Elles ont toutes été construites le long de la même route postale et commerciale. La ville de Sardes était le joyau de toutes ces villes. Pendant un certain temps, elle a été la ville la plus riche de tout le monde antique. Elle tirait ses richesses de l'exploitation intensive de mines d'or et d'argent. L'argent, les ressources et les finances affluaient rapidement et facilement pour les habitants de Sardes. L'histoire nous apprend que les premières pièces de monnaie frappées dans toute l'Asie mineure provenaient de la ville de Sardes. Comprenez bien, c'est une ville aisée. C'est une ville importante et prestigieuse, et ses habitants sont incroyablement aisés. De plus, la ville était immense. Elle avait des murs imprenables et elle était construite sur des falaises de près de 500 mètres de haut. Sardes est un lieu de luxe et de plaisir, de richesse et de vie luxueuse. Si nous devions la replacer dans notre contexte moderne, imaginez le strip de Las Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Tout est permis, on fait ce que l'on veut, rien n'est interdit. Sardes est une ville qui permet toutes ces choses. Sardes, en tant que ville, avait la réputation d'être orgueilleuse, complaisante et vaniteuse. C'est dans cet environnement que l'Église a vécu et opéré. Lorsque nous examinons les paroles de Jésus adressées à cette Église et que nous les juxtaposons aux six autres lettres et aux six autres églises auxquelles Jésus écrit, nous nous rendons compte qu'à Sardes, Aucune persécution ou menace extérieure n'est mentionnée. Nous ne voyons aucune mention de fausses doctrines enseignées dans l'Église. Il n'est pas fait mention d'une extrême pauvreté ou d'un manque au sein de la congrégation. Au moins en apparence, tout semble fonctionner parfaitement. Tout semble aller comme il faut. Jésus dit même, « Église, tu as un nom, ta réputation te précède. » De l'extérieur, les gens regardaient l'église de Sardes et pensaient, « C'est une église florissante. Cette église a tout ce qu'il faut, des célébrités sur les bancs et des célébrités dans la chair. » Combien d'entre vous savent que si les hommes regardent de l'extérieur, Jésus, lui, a tendance à regarder droit au cœur? Son point de vue et son opinion dépassent de loin ceux des foules. Jésus, qui regarde droit au cœur, prononce des mots durs à l'égard de l'église de Sardes. Tout d'abord, il leur rappelle qui il est. Il commence la lettre en disant ceci, « C'est moi qui ai les sept esprits de Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il détient la plénitude du Saint-Esprit. Le chiffre 7 est synonyme d'achèvement, de plénitude. Jésus dit, « C'est moi qui donne le Saint-Esprit. Je tiens dans ma main la plénitude de l'Esprit. » Si vous vous référez à Ésaïe 11 ou à Éphésiens 1, vous verrez qu'il y est question du septuple travail et ministère du Saint-Esprit. C'est à cela que Jésus fait référence. Il dit à l'Église, « J'ai la plénitude du Saint-Esprit, mais j'ai aussi les sept étoiles. » Nous l'avons appris la première semaine. L'expression « sept étoiles » fait référence aux sept pasteurs ou leaders des églises auxquels Jésus écrit. Je trouve vraiment fascinant que Jésus se présente ainsi à l'église de Sardes. Car c'est comme un indice de ce qui manque à cette église et de ce dont elle a désespérément besoin. Elle a besoin de vie, d'une vie pieuse. Elle avait besoin d'un vent nouveau. Elle avait besoin d'un leadership fidèle et pieux. Elle devait se rappeler que Jésus est le chef de son Église. Sardes avait complètement oublié tout cela. Jésus le leur rappelle. Il dit, « C'est moi qui détiens l'Esprit de Dieu. C'est moi qui tiens l'Église dans la paume de ma main. » Ensuite, il dit quelque chose qu'aucune Église ni aucun pasteur ne veut entendre. Il dit, « Je connais tes œuvres. De l'extérieur, tu sembles vivant. Tous tes systèmes sont en place. Tu exécutes tous les programmes. Tu as les lumières, les écrans et la technologie. Tu peux attirer une foule et remplir des bancs. Toutes ces choses ont fière allure. À l'extérieur, elles te donnent l'air vivant. Mais Jésus dit, « À l'intérieur, là où c'est important, là où ça compte vraiment, il n'y a pas d'esprit. » Il n'y a pas de vie, et tu es mort. Cela me rappelle ce que l'apôtre Paul a dit à un jeune pasteur nommé Timothée. Ce contre quoi il l'a mis en garde. Il le mettait en garde contre une église souillée par le monde. Il le mettait en garde contre une église remplie de décadence intérieure. Une église remplie de personnes non-croyantes qui ne sont là que par obligation ou par devoir, là pour jouer le jeu ou simplement cocher des cases. Paul l'exprimait ainsi. Ces gens, dans ces églises, ont une forme de piété. Mais ils renient sa puissance. Ce matin, avant d'aller plus loin, je dois nous interroger. Est-ce qu'une partie de l'église de Sardes vous fait penser à vous-même? Ou à votre situation actuelle? À un moment donné, vous étiez enthousiaste pour les choses de Dieu, attaché à son œuvre et à sa parole. Aujourd'hui, vous vous regardez et vous êtes à la dérive. Vous êtes complaisant, démotivé et sans enthousiasme. Peut-être venez-vous à l'église de temps en temps le dimanche. Mais si vous êtes honnête, Jésus est la chose la plus éloignée de votre esprit du lundi au samedi. Peut-être que la présence du Saint-Esprit qui vous était si familière est devenue une chose du passé. Presque comme un ami perdu de vue depuis longtemps. Pour être honnête, je dois faire face à ces choses dans ma propre vie. En outre, en tant que pasteur, je dois examiner ce passage et me demander si l'Église de Sardes présente des similitudes avec l'Église que Dieu m'a confiée. Pour être honnête, cette introspection n'est pas très agréable. Jésus n'est pas content de Sardes. Mais j'aime Jésus. Au lieu de les ignorer, ce qu'il a d'ailleurs tout à fait le droit de faire. Au lieu de les exclure, il leur donne dans sa bonté un moyen de se rétablir. Il leur donne des instructions. Ce faisant, il nous donne également des instructions. Il dit cinq choses. Il nous donne cinq instructions auxquelles nous devons veiller et que nous devons appliquer si nous voulons être l'Église que Jésus souhaite et désire ardemment. Voici la première. Petite précision, je vais passer la plupart de mon temps sur la première, puis parcourir rapidement les quatre autres. Voici la première instruction. Jésus nous dit, et il dit à l'Église, « Sois vigilant ». Les deux premiers mots du deuxième verset, « Sois vigilant ». C'est un appel à nous éveiller à notre condition. Pensez au vieil adage, comment fait-on bouillir une grenouille ? Même si je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire bouillir une grenouille. Comment fait-on bouillir une grenouille ? On ne peut pas la jeter dans une casserole d'eau bouillante, car elle saura qu'elle est en danger et sautera dehors. Si vous voulez faire bouillir une grenouille, ce qui n'est pas une bonne idée, si vous voulez faire bouillir une grenouille, vous devez la mettre dans de l'eau froide sur la cuisinière, parce qu'elle a le sang froid, puis vous augmentez le feu petit à petit. La température de cette grenouille correspondra progressivement à la température de l'eau. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle sera en train de bouillir. Elle ne saura même pas qu'elle est en danger avant qu'il ne soit trop tard. Prenons cette image et appliquons-la à notre vie. Sommes-nous conscients de notre état ? Sommes-nous en danger sans le savoir ? Il est bon de faire régulièrement l'inventaire personnel de notre vie, l'inventaire de l'Église, de se regarder dans le miroir et de se confronter à la vérité de notre situation. Non pas là où nous pensons être, non pas là où les autres nous disent que nous sommes, mais là où nous sommes réellement. Nous devons sentir et comprendre que notre service pour le roi est devenu terne et inerte. Nous devons honnêtement faire face à nos erreurs et à nos échecs. Nous devons reconnaître que nous avons désobéi à notre roi. Nous devons reconnaître que nous avons fait des compromis et que nous sommes devenus complaisants. Nous devons nous éveiller à notre véritable condition devant Dieu. Jésus dit, « Sois vigilant. Sois vigilant. » Je trouve fascinant que, de toutes les sept églises, ce soit à celle-ci que Jésus dise cela. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, que la ville de Sardes était connue pour son orgueil démesuré, sa vanité et sa complaisance. Quand j'entends Jésus dire « Sois vigilant », je ne peux m'empêcher de me demander si l'état d'esprit de la ville ne s'est pas infiltré dans l'Église. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la ville était construite sur des falaises de près de 500 mètres de haut et qu'elle était entourée d'un énorme mur ? Les habitants pensaient qu'elle était imprenable. Ils pensaient qu'elle ne serait jamais prise d'assaut. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces défenses, Sardes a été conquise deux fois. De la même manière les deux fois, par les Perses et par les Grecs. L'histoire nous apprend que l'une des deux fois, l'armée ennemie s'est attaquée à Sardes et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas attaquer de front et a donc assiégé la ville. Une nuit, l'un des soldats sardes se trouvait sur la muraille et regardait vers le bas. Son casque s'est détaché et est allé s'écraser sur le côté de la paroi rocheuse. Ce soldat, ne voulant pas avoir d'ennui pour avoir perdu son équipement, descendit de son poste. Il est descendu au pied du mur et a emprunté une porte secrète dans le mur, puis un sentier caché le long de la paroi rocheuse. Il a attrapé son casque, l'a remis, a remonté ce sentier, est revenu par la porte secrète dans le mur et a regagné son poste. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'armée ennemie l'observait. Plus tard dans la nuit, un groupe de soldats ennemis a emprunté le même sentier caché. Ils sont passés par la même porte cachée dans le mur. Elle était entièrement sans surveillance. Les soldats sardes dormaient à leur poste. Les gardes qui étaient censés monter la garde croyaient tellement à la réputation des défenses naturelles de la ville qu'ils se sont laissés aller à la complaisance et n'ont pas ressenti le besoin de surveiller constamment ce qui avait été laissé à leurs soins et à leur charge. Leur complaisance a causé la perte de la ville. L'histoire nous apprend que Sardes ne retrouva jamais son indépendance. Au moment où Jésus écrit cette lettre, la ville est sous occupation romaine. Jésus écrit et dit « Sois vigilant ». L'Église, entendant cela, a dû immédiatement repenser à l'histoire de sa ville, à la façon dont le sommeil et le manque d'attention ont inévitablement conduit à sa destruction. En tant que pasteur et leader, et même en tant que croyant, nous devons prêter attention lorsque Jésus nous demande d'être vigilants. Nous devons sérieusement affermir les choses qui restent. C'est en fait la deuxième instruction que Jésus nous donne. Je vais rapidement parcourir les quatre dernières. Ce que j'aime dans ce que Jésus dit ensuite, c'est qu'elles s'appuient les unes sur les autres. Jésus dit quelque chose, puis sa prochaine parole est en fait la réponse à la première chose qu'il a dite. La deuxième instruction est « Affermis ce qui reste ». Verset 2. « Sois vigilant et affermis ce qui reste. Qui s'en va mourir ?» Affermis ce qui reste. Cette instruction nous invite à faire sérieusement et honnêtement l'inventaire de notre vie. Il y a quelques semaines, j'ai emmené ma famille faire du camping. Nous étions à la dure, dans les montagnes. Tous les soirs, nous nous asseyions près du feu. J'aime énormément passer du temps avec des amis et la famille autour d'un feu, se raconter des histoires, plaisanter et rire ensemble. J'ai trois fils, un de 14 ans, un de 12 ans et un de 7 ans. Leur tâche consistait à surveiller le feu tous les soirs. Ne pas laisser le feu s'éteindre. Ils s'en sont bien sortis. En fait, on pouvait voir notre feu depuis l'espace. Ils ont réussi à ne pas laisser le feu mourir. C'est ce que signifie affermir ce qui reste. Pensez à un feu mourant qui est réduit à son minimum. Il ne reste que quelques braises et Jésus ordonne « Lève-toi, mets du bois sur le feu, attise ce feu, ravive la flamme. Attise les vérités sur lesquelles l'Église a été bâtie. Ravive l'Évangile pour qu'il se répande dans toute l'Église. » Encore une fois, c'est une instruction qui s'étend sur plusieurs niveaux différents. Premièrement, elle s'étend à l'ensemble de l'Église, mais aussi à l'Église individuellement. Rappelez-vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Au niveau individuel, que signifie affermir ce qui reste? Cela signifie que nous devons nous demander, sur le plan spirituel, y a-t-il des domaines où je me suis laissé aller à la complaisance, des domaines auxquels je n'ai pas accordé l'attention nécessaire? Peut-être est-ce le domaine de la prière? Peut-être est-ce le domaine de la lecture de la parole? Certains ont accumulé tellement de poussière sur leur Bible qu'ils peuvent y écrire le mot « enfer ». Nous sommes devenus complaisants à l'égard de la parole. Certains d'entre nous sont devenus complaisants dans leur louange et leur adoration. Certains d'entre nous sont devenus complaisants concernant leur temps, leur trésor et leur talent. Quels que soient ce ou ces domaines, nous devons les affermir et en raviver la flamme. Nous ne pouvons pas laisser le feu s'éteindre. Ce commandement de Jésus ne s'adresse pas seulement à l'individu, il s'adresse aussi à nous collectivement en tant qu'Église. Qu'il s'agisse de Cottonwood ou de l'ensemble du corps de Christ, nous devons nous demander, y a-t-il des domaines auxquels nous devons prêter attention? Y a-t-il des domaines dans lesquels nous agissons par routine? Lorsqu'il s'agit du culte, venons-nous simplement pour cocher la case ou venons-nous avec l'intention de magnifier Jésus? Venons-nous pour placer nos yeux sur Jésus ou venons-nous pour éprouver un sentiment d'euphorie? Lorsque nous prêchons, disons-nous la vérité dans l'amour? Jésus est-il le point central de nos sermons? Ou s'agit-il de présenter trois points sur la façon d'avoir une vie heureuse? Enseignons-nous encore la croix? Enseignons-nous la résurrection? Enseignons-nous tout le conseil de la parole de Dieu? Équipons-nous les saints pour le travail du ministère? Les gens sont-ils sauvés, baptisés, formés au discipulat et remplis du Saint-Esprit? En ce qui concerne le Saint-Esprit, ressentons-nous sa présence au milieu de nous ou notre programme l'a-t-il exclu dès le début du culte? Lorsqu'il s'agit de notre mission et de notre travail de proximité, faisons-nous réellement la différence? Ou le faisons-nous parce que nous l'avons toujours fait? Ces choses sont nécessaires, elles sont bonnes, elles sont importantes et essentielles. Si nous voulons affermir ce qui reste, nous devons nous regarder dans le miroir régulièrement. Faire l'inventaire, nous mettre à genoux et dire « Seigneur Jésus, si nous nous sommes égarés, Seigneur Jésus, si nous avons fait des compromis, si nous sommes devenus complaisants, veux-tu nous le montrer? Par ta miséricorde, veux-tu nous aider à affermir ces choses ?» La pire forme de tromperie est l'aveuglement. C'est se convaincre que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont en réalité. Je prie pour l'Église, individuellement et collectivement, afin que le Saint-Esprit nous aide à affermir ce qui reste. Voici l'instruction suivante. Jésus dit ceci au verset 3, « Souviens-toi. » Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. J'aime cette instruction. parce qu'elle nous donne la réponse à la façon d'affermir ce qui reste, qui était l'instruction précédente. Si vous voulez affermir ce qui reste, vous devez revenir au fondement initial. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez reçu et entendu. Savez-vous ce dont l'Église américaine a besoin? Elle a besoin de se souvenir. De ce que nous avons reçu et entendu, nous devons revenir à l'Évangile. Nous devons nous rappeler d'où nous venons, revenir aux doctrines de la croix et de la résurrection. Nous devons revenir aux doctrines du péché, de la mort, de l'enfer, de la repentance, de la justice et de la vie éternelle. Si je dis cela, c'est parce que nous vivons actuellement dans l'ère de l'oreille qui démange. En 2 Timothée 4:3, l'apôtre Paul parle prophétiquement de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il dit ceci à Timothée, en parlant des congrégations et des hommes. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ne vous y trompez pas, nous vivons à cette époque. Quel est le remède contre l'oreille qui démange et contre l'époque dans laquelle nous vivons? Paul donne la réponse dans le même chapitre. La réponse qu'il donne est la même que celle que Jésus donne en Apocalypse 3. Paul dit ceci à Timothée. Tu veux résoudre le problème? Prêche la parole. En Apocalypse 3, Jésus l'exprime ainsi. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. Puis-je dire quelque chose qui pourrait mettre certains d'entre nous un peu mal à l'aise ce matin? La parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée dans la vérité, est censée nous mettre mal à l'aise. Elle est censée nous sortir de notre torpeur, elle est censée nous mettre au défi et remettre en question notre vision du monde. La parole de Dieu est censée nous convaincre, nous réprimander, nous mettre au défi, nous enseigner et nous exhorter. Pendant trop longtemps, nous, les pasteurs et les leaders, au lieu de confronter les oreilles qui démangent, nous y avons cédé. Et nous avons couru après la popularité dans la chair. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu me pardonne pour le rôle que j'ai joué. Alors que nous voyons le déclin rapide de la moralité dans la société tout autour de nous, et que nous voyons le retour imminent de Jésus approcher à grands pas. Peut-être seulement, est-il temps que les pasteurs recommencent à être impopulaires? Si nous voulons voir le réveil dans nos églises, nous devons prêcher la parole. Si nous voulons voir le réveil dans notre vie personnelle, nous devons nous souvenir de ce que nous avons entendu et reçu. Il ne faut pas seulement s'en souvenir, mais aussi la garder. Nous devons la garder et nous devons nous repentir. Ce sont les deux dernières instructions. Jésus dit, « Garde-la et repens-toi. » Verset 3. « Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde-la et repens-toi. » Le mot « garder » signifie littéralement « garder à tout prix ». Dans ce cas, Jésus parle de la vérité de l'Évangile. Il dit, « Souvenez-vous de ce que vous avez reçu, maintenant gardez-la. » Gardez-la à tout prix. Il insinue qu'il y a un ennemi qui essaye de nous l'enlever. N'est-ce pas la vérité? L'ennemi de notre âme est prêt à voler la vérité de notre cœur. Pensez à la parabole du semeur. Le semeur sème des graines. Que fait l'ennemi? Il essaye immédiatement de prendre cette semence. Il essaye de l'étouffer. Il essaye de la voler. Parce qu'il sait que si la parole de Dieu, les semences de la parole de Dieu, peut trouver un sol riche dans notre cœur, si cette semence peut s'enraciner dans notre cœur, l'ennemi sait que nous pourrons lutter efficacement contre lui. Il sait que nous ressemblerons de plus en plus à Christ. Il veut nous la voler. L'instruction de Jésus est la suivante. Garde fermement la vérité. Garde fermement la confession de ta foi. Jésus est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il a été enseveli le troisième jour. Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit, l'a ressuscité. Nous devons garder la confession qu'il n'y a qu'un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous devons garder l'autorité et la puissance des Écritures. Le ciel et la terre disparaîtront, mais ces paroles ne disparaîtront pas. Nous devons garder fermement la doctrine de la justification par la foi et de la sanctification par la parole et l'Esprit. D'une main, nous devons nous accrocher à ces confessions. Nous devons protéger ces vérités à tout prix. Puis de l'autre main,
Nous devons tendre la main et apporter un Jésus vivant à un monde mourant autour de nous.
Oui, l'Église est un bastion de la vérité. Mais, mon ami, nous sommes aussi une station de salut. Quelqu'un m'a dit, « Je veux créer une mission humanitaire juste devant les portes de l'enfer. » Nous voulons empêcher les gens d'y aller. Nous devons apporter un Jésus vivant à un monde mourant. Dieu n'a jamais voulu que l'Église se nourrisse de la parole de Dieu et se cache en quelque sorte en disant « Jésus, viens vite, sauve-nous de ce monde méchant !» Oui, nous voulons que Jésus vienne rapidement et oui, nous avons besoin d'apprécier la parole de Dieu et d'être établis dans la vérité. Mais nous devons aussi être une Église qui tend la main et qui évangélise. Oswald Chambers a dit « L'Église qui n'évangélise pas se fossilise ». Peut-être y a-t-il des gens dans votre vie en ce moment, des parents, des amis ou des collègues, qui ne connaissent pas Christ. Je vous mets au défi de leur tendre la main et de partager l'Évangile avec eux. Voyez ce que Dieu fera.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.